Les lecteurs interviewent d'autres lecteurs. Nous avons voulu mettre en lumière les imaginaires de trois usagers, lecteurs de la BEP, enregistrés lors d'un atelier d'initiation au podcast qui a eu lieu le 16 février 2025 en résonance avec l'exposition « Nos imaginaires ».
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous sommes à la BEP pour connaître Monsieur Philippe Pignon. Merci pour votre présence aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, je m'appelle Philippe Pignon, j'ai 66 ans et je suis un habitué de la Bibliothèque d'études du patrimoine, la BEP.
Depuis quand que vous venez ici à la BEP ?
Depuis un peu moins d'un an. Je crois que j'ai dû commencer à venir en mai. Avril-mai, quelque chose comme ça.
Que faites-vous dans la vie ?
Alors, pour l'instant, honnêtement, pas grand-chose de plus que venir à la BEP.
Oui.
D'accord, parce que je suis retraité. J'ai été ingénieur informaticien et puis professeur de mathématiques. Tout ça aux États-Unis. Je suis parti de France quand j'avais 30-31 ans et je suis resté aux États-Unis, d'abord sur la côte ouest, à la Silicon Valley. Donc là, j'étais ingénieur informaticien. Donc, j'y suis resté pendant 15 ans, je crois. Ensuite, je suis venu sur la côte Est, en Floride. Et c'est là que j'ai changé un petit peu de métier. Je suis devenu professeur de mathématiques dans ce qu'ils appellent les community colleges. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je comprends, on est en France, mais c'est des institutions qui s'adressent à des élèves au-delà de l'équivalent du bac, c'est-à-dire au-delà de 18 ans. Mais par nature, c'est des institutions qui ont vocation à accueillir tous les élèves de la communauté. Donc très souvent, j'avais des étudiants qui avaient mon âge, sinon plus.
D'accord. Voilà. Quel est votre lien avec la BEP aujourd'hui ?
Je suis un usager ou un utilisateur de bon standing. J'ai une carte. Je suis très, 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 très reconnaissant de l'existence de la BEP. Je suis très, très enthousiasmé par la mise à disposition au public, comme ça, de toutes sortes d'ouvrages. En fait, ça a été une de mes premières activités en France. Je suis revenu en France donc en avril-mai, quelque chose comme ça. Une de mes premières démarches, ça a été précisément de m'inscrire d'abord à ma bibliothèque de quartier, qui est Fabre. Et puis ensuite, j'ai appris l'existence de la bibliothèque d'études, parce que je voyais toutes sortes de livres que je cherchais étaient inscrits à la BEP. Donc je suis revenu ici, dans le cadre d'un projet qui est que je lis tous les prix Goncourt depuis l'origine.
Voilà. D'accord. Et dans quel ordre vous lisez les Goncourt ?
Alors, platement, parce que je suis mathématicien, j'ai lu dans l'ordre. Là, d'accord. Pourquoi ça ? Bah, pour plusieurs raisons. D'abord, en tant que mathématicien, les séries m'intéressent toujours. Parce que je n'ai pas vraiment de culture littéraire. Donc, comme je dis, autant prendre des choses qui ont reçu l'assentiment et qui ont été reconnues et honorées par des gens sérieux. Donc, c'est un projet, en fait, que je n'ai pas commencé récemment. J'ai commencé ça il y a peut-être 10 ans. Enfin, aux États-Unis, c'est un peu plus difficile de se procurer des sources françaises. Aux États-Unis, je faisais la même chose, mais avec le prix Pulitzer Prize, qui est donc un prix américain qui récompense... C'est un peu plus vaste, ça récompense les pièces de théâtre, les articles de journalisme, les pièces de musique, etc. C'est moins centré sur la littérature. Pour le Pulitzer Prize, donc, j'ai fait ça à grande échelle. Et puis, quand je pouvais trouver les références françaises dans les bibliothèques américaines, eh ben, je le faisais, mais ça allait beaucoup plus lentement, parce qu'il fallait se les procurer, etc. Donc, depuis que je suis revenu en France, ce projet a pris un grand coup d'accélérateur. Parce que maintenant, et c'est pour ça que je suis très reconnaissant de l'existence de bibliothèques d'études et de patrimoine, parce qu'ils ont absolument, autant que je puisse voir, et jusqu'à présent, tous les livres que je demandais sur place. Voilà. Donc il faut le consulter sur place. Ça, au début, ça m'a paru être une sorte d'imposition. Je me suis dit, ah, quand même, bon. Et puis, en fait, j'ai découvert que j'aimais bien, en fait. Je dis, je viens ici, voilà, et puis, bon, ben voilà, je me mets à lire et je fais rien d'autre. J'ai pas de distraction, j'ai pas d'autre chose à faire. Et donc, je me suis rendu compte, par exemple, que pour certains prix Goncourt célèbres, comme, je sais pas, La Condition humaine de Malraux, qui sont tout à fait disponibles et que je pourrais tout à fait emprunter, que je pourrais lire chez moi, en fait, je les lis ici aussi. Voilà, parce que j'aime bien la grande salle, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien, voilà. Donc voilà, donc c'est ça, si vous voulez, mon lien avec la BEP. C'est la BEP qui me permet, en fait, d'accomplir, de poursuivre ce projet. Alors, si vous voulez savoir, j'en suis à l'année 1953. Donc, c'est Les Bêtes de Pierre Gascard, le prix Goncourt 1953, voilà.
Et vous lisez en ordre croissant, j'imagine ?
Eh oui, j'ai commencé par le numéro 1. Alors justement, avant de venir, parce que je me disais quand même, il faut que je paraisse un petit peu sérieux, j'ai regardé un petit peu quels étaient les prix, parce que ça fait longtemps, hein, je veux dire, j'ai commencé il y a 10 ans, donc les premiers. Par contre, alors je ne me souviens plus tellement du numéro 1, qui est en fait curieusement un auteur américano-français, Monsieur No, N-A-U, c'était un pseudonyme. Il était né à San Francisco, où j'ai passé justement 15 ans, c'est surprenant. Donc c'était un roman qui, je crois, se passait dans un asile psychiatrique, où c'est raconté à la première personne. Et on, vers la fin du roman, on ne sait plus très bien s'il est sous l'empire d'une maladie, ou si vraiment... Enfin, c'est un livre un peu fantastique, comme ça. Bon. Donc je me souviens plus ou moins. Par contre, je me souviens assez bien du second, qui s'appelle La Maternelle, qui est de Léon Frappier. Ça, je me souviens. Et c'est un roman qui m'a beaucoup frappé par sa modernité d'écriture et sa modernité de thème. Donc, vous y suivez une jeune femme, très éduquée, même pour l'époque, et parce qu'elle est diplômée, n'arrive pas à trouver du travail. Donc, elle essaie de trouver du travail, elle est obligée de masquer son éducation et ses diplômes. Sa famille vit des moments difficiles. Je crois qu'elle vit avec son père, avec qui elle ne s'entend pas très bien. Il y a eu des soucis. La famille est plus ou moins ruinée. Bon. Et donc, ce sont ses expériences en tant que maîtresse de maternelle. Là aussi, on est surpris parce qu'on se dit, bon, quand même, la maternelle, ce n'est pas quand même un sujet romanesque très, très prenant. Et en fait, c'est un sujet prenant. Et un autre aspect dont je me souviens de ce livre, que c'est donc, ce monsieur Léon Frappier, qui est donc le prix Goncourt 1904, il a écrit en fait en se basant sur les souvenirs de sa femme. Et de manière assez exceptionnelle, il a complètement assumé ça dès le départ. Il a dit, voilà, moi j'écris ça avec ma femme sur les souvenirs. Parce que lui, il n'était absolument pas instituteur. Donc il a dit, voilà, je me suis basé sur le matériel comme vous voyez, je l'ai juste mis en forme. Ce que j'ai trouvé très bien en fait, très, très moderne comme attitude. Voilà. Donc voilà, je me souviens, disons, ça c'est un livre que j'ai lu il y a probablement au moins 10 ans, sinon plus. Donc oui, réponse à votre question, je les lis en ordre croissant.
Quels sont les livres qui ont le plus marqué votre imaginaire ?
Il y en a beaucoup. Il y a des livres qui me sont venus du parcours scolaire, c'est-à-dire les livres dont on parle en classe, hein, donc les classiques de la littérature française. Bon, il y avait Zola, il y avait Maupassant, enfin ces gens-là. Et puis il y a les livres que j'ai découverts moi-même, un peu au hasard. J'ai un peu honte de dire que quand je me promenais dans les bibliothèques, je choisissais les livres d'après leur couverture, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais bon, il y avait des livres de la NRF, les livres de chez Gallimard, qu'on pouvait reconnaître tout de suite parce qu'ils avaient une couverture assez distinctive. Et donc, je les choisissais. Donc, deux auteurs comme ça que j'ai trouvés un peu par hasard. Il y a eu Boris Vian, qui, à l'époque, sentait un peu le soufre. Hein, il n'était pas mort depuis très longtemps. Il avait eu beaucoup de succès de scandale. Il y avait beaucoup de choses autour de lui. Donc voilà, il y a eu Boris Vian. Et il y a eu, un tout petit peu après, Georges Perec. De Boris Vian, j'ai commencé assez fort en lisant L'écume des jours, qui maintenant, on me dit, est au programme des lycées. Donc c'est très bien, bravo. C'est un très beau roman. Puis alors, déjà même jeune, j'avais ces idées de série. Je me suis mis à la recherche de tous les livres Boris Vian sur lesquels je pouvais mettre la main. Donc, il y a eu L'automne à Pékin, bon, et toutes ces séries. Il n'a pas écrit énormément de romans. Donc, je crois que je les ai à peu près tous lus. Et puis après, par hasard, j'ai trouvé les romans qu'il écrit sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Donc, en se faisant passer pour un auteur de polar américain. Et donc, J'irai cracher sur vos tombes, Les morts ont tous la même peau. Et là, j'étais absolument... En fait, ça m'a causé du trouble parce que ma mère a tombé sur ces bouquins et donc elle avait une certaine culture littéraire, donc elle savait à peu près de quoi elle retournait. Moi, je n'avais aucune idée. Hein. Elle m'a demandé si j'avais lu. Je lui ai dit oui. Bon, elle a eu cette attristée, mais enfin, comme... Bon, elle s'est probablement dite qu'il n'y avait pas grand-chose à faire maintenant que le mal était fait. En fait, bizarrement, j'ai relu L'écume des jours il y a peut-être 2 mois. Ça, c'est une chose qui en général n'est pas trop recommandé de revenir sur ses amours de jeunesse et de les relire, hein, parce que c'est toujours un petit peu dangereux. Moi, j'ai eu des déceptions comme ça en revoyant des films que j'avais beaucoup aimés il y a 30 ou 40 ans, et je me dis quand même, c'était pas terrible. Mais par contre, j'ai relu toute L'écume des jours en étant toujours aussi épaté. Et j'ai trouvé ça, parce que vous savez, les boîtes de lecture qui sont dans les rues de Toulouse, et j'ai trouvé, bon, et voilà, je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas. Et de la même façon, j'ai relu Georges Perec il n'y a pas longtemps, j'ai donc lu la vie mode d'emploi. Et même chose, j'ai toujours été aussi épaté. Alors, Georges Perec, c'est pareil. Quand j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc, j'ai cherché à mettre la main sur tout ce que je pouvais trouver. Donc, il y a eu La vie devant soi, il y a eu Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour, je crois que c'est le titre à peu près. Voilà.
Et comment vous pensez que l'imaginaire peut influencer la façon d'enseigner la mathématique ?
Ah ! C'est, l'imagination, c'est une qualité essentielle quand on est mathématicien. Je veux dire, les plus grands mathématiciens, ils se distinguent comme ça. C'est absolument indispensable.
Et quel est votre rapport avec l'imaginaire et comment il a évolué au fil de votre vie. Vous avez lu, par exemple, les mêmes livres des décennies après. Pensez-vous que cette expérience de lecture a été différente de quand vous étiez plus jeune, par exemple ?
Ça, c'est une très bonne question. Je pense que, d'un certain côté, je pense qu'il y a une compréhension intellectuelle qui est peut-être un peu plus poussée. D'accord ? Donc on comprend un peu mieux ce qui passe, ce que l'auteur veut faire, ce qu'il veut dire, etc. Mais de l'autre côté, il y a l'aspect émotionnel qui, lui, je pense, ne change pas. C'est-à-dire que vous êtes toujours ému, plus ou moins de la même façon, par les mêmes choses.
C'est que vous touchez une fois, vous touchez une...
Voilà,
toujours.
C'est à peu près ça. C'est à peu près ça.
C'est la mémoire affective, alors, en lien avec...
J'imagine. Mmh. Et puis... Je veux dire, bien sûr, on évolue, on comprend plus de choses, il y a des choses qu'on comprend moins aussi, etc., etc. Mais je vous le dis, moi j'étais un petit peu dubitatif quand j'ai repris ces romans, je me dis, oh, bon, je vais peut-être trouver que c'était pas si terrible, et en fait, pas du tout. Mais c'est pas une expérience, je veux dire, universelle. Quand je vous dis, j'étais très déçu par certains films que j'ai revus, j'ai dit, quand même, c'est un peu long, c'est un peu plat, c'est un peu, etc. Donc voilà, il y a ça pour la littérature. Alors peut-être que, de fait, de la littérature, si vous voulez, c'est que, par rapport au cinéma, par exemple, ça marche par l'imaginaire, justement. Le cinéma, c'est beaucoup plus fermé comme expérience. Voilà, on vous propose un dialogue, on vous propose des situations, on propose des personnages, des paysages, etc. Donc, ça laisse moins de place à l'imagination que la lecture. Donc, peut-être que finalement, je suis dans l'erreur en me disant que j'éprouve la même émotion. Peut-être que l'imaginaire que je déploie maintenant est différent de l'imaginaire que je déployais il y a 50 ans, disons, mais il est quand même là.
Et en quoi les livres Sede Perec et Ouyen ont-ils marqué votre imaginaire ?
Je pense que c'est des... Surtout le livre de Boris Vian, donc « L'écume des jours ». Je pense que c'est un livre qui est... Enfin, je veux dire, c'est un grand livre, je vais pas essayer de défendre, il n'a pas besoin de ça. Mais moi, ce que j'apprécie dans ce livre, c'est que c'est un livre qui est à la marge du surréalisme. C'est-à-dire qu'on reconnaît très bien ce qui se passe... Les situations sont très claires, je veux dire, c'est assez standard. Mais il y a des petites choses qui sont un petit peu de côté, comme ça, qui sont un petit peu off, comme on dit, qui sont un petit peu fantastiques, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, y a comme ça, et je pense que c'est ce qui fait sa force au récit, c'est qu'on ne s'embringue pas immédiatement dans une histoire complètement surréaliste, complètement tirée par les cheveux, qu'on aurait du mal à suivre. Et... Là, l'idée générale, c'est qu'on est dans une situation qu'on peut reconnaître, à laquelle on peut s'identifier comme une situation qu'on peut comprendre. Mais en même temps, il y a des petits aspects comme ça qui font l'intérêt de la chose.
Très bien. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Avez-vous vu l'exposition sur les imaginaires à la BEP ?
Oui, je l'ai vu.
Qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à l'exposition en lien à tout ce que vous venez de dire
Alors, j'ai vu... Donc, il y a deux choses dont je me souviens. La première, c'est les pop-up books. Donc, ces livres qu'on ouvre et qui contiennent des mécaniques de papier. Bon, parce qu'un ingénieur s'est toujours intéressé par ce genre de choses. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça en anglais les paper engineers. Donc, c'est des gens qui... C'est toute une science, hein, je veux dire, on ne s'improvise pas comme ça. Donc, il y a ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu, justement, il y a le livre d'Alice au Pays des Merveilles, je crois, qu'il est en pop-up book. Je crois que les illustrations qu'ils ont utilisées ne sont pas les illustrations originales qui étaient de Tenniel, je crois, c'est un dessinateur anglais. Et je pense que... Donc, il est très célèbre, hein, toutes les illustrations qu'on voit, c'est en général les siennes. Et là, pour des raisons pratiques, ou même peut-être pour des raisons de droit, ils n'ont pas fait ça. Bon, ils ont pris un autre dessinateur pour faire ça. Donc, il y a ça. Et le deuxième, la chose dont je me souviens également, c'est la vision du monde. Donc, y a des choses que je connaissais déjà plus ou moins, donc la vision du monde circulaire comme une assiette, qui était de fait d'un géographe arabe, je crois. Et puis quelque chose que j'ignorais absolument, qui était une vision d'un monde pyramidal, faite par les habitants, les premiers habitants précolombiens de l'Amérique du Sud, des Incas peut-être. Enfin bon, je ne veux pas trop m'avancer parce que je me souviens plus très bien. Mais enfin, j'étais assez surpris de voir qu'il y avait eu comme ça une représentation du monde qui, bien sûr, s'est probablement reflétée dans les fameuses pyramides qu'on connaît dans ces pays-là.
Et pour finir, si on vous a laissé une vitrine, qu'est-ce que vous auriez mis sur l'exposition Les Imaginaires Halabep?
Qu'est-ce que j'aurais mis Bon, alors déjà, une chose qui m'a toujours frappé dans les imaginaires, en particulier les gens qui essaient de s'imaginer le futur. Pendant une bonne période de la littérature, il y avait une imagination du futur jusqu'au début du 19e siècle, je pense, qui était en fait assez optimiste. Et puis, tout à coup, probablement vers le milieu du 20e siècle, suite à toutes sortes de choses, on s'est mis à imaginer des choses assez pessimistes. Donc ça, je ne sais pas comment si ça peut faire l'objet d'une exposition, parce que c'est quand même très littéraire. J'ai lu ça. Par exemple, un des livres, pour le coup, c'est un livre que j'ai lu en anglais et qui m'a frappé, c'est Cormac McCarthy, c'est The Road. Et en fait, j'ai été à la bibliothèque Fabre, fraîchement arrivé des États-Unis. Je leur ai dit, bon, écoutez, aux États-Unis, la BD, c'est quand même pas quelque chose qui est très, 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 très sérieusement considéré. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors, ils m'ont dit, ben, écoutez, regardez The Road, ou La Route. Mm-hmm. Et en fait, c'est un récit que j'ai connu trois fois. J'ai lu une fois en roman, j'ai vu le film, qui est très bon, et j'ai lu ces bandes dessinées, qui est très bonne aussi. D'accord? Donc, comment on s'imagine le futur? Et l'évolution de cette imagination du futur. Là, pour l'instant, je n'arrive pas à voir, je ne sais même pas s'il n'y aurait aucun succès, un livre ou une BD qui présenterait le futur sous un angle optimiste et rose. Peut-être que ça n'aurait aucun succès, mais enfin, tout de même, jusqu'à une certaine époque, c'était quand même assez prévalent. Il y avait une espèce d'optimisme. Voilà.
Ce podcast a été réalisé par Alexandre Ajos pour Média Commun Occitanie, avec la complicité des participants et participantes à l'atelier et des bibliothécaires. Il est placé sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.